journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les sénateurs en passent de rejeter le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il est appliqué depuis 2017 sans avoir été totalement ratifié.
Comment fournir des armes pour l'Ukraine et pour l'Europe sans les États-Unis où les budgets sont bloqués? Reportage dans une usine de missiles à Belfast.
Les États-Unis présentent un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Nous irons en Allemagne où la Bavière renonce à l'écriture inclusive.
Et puis du changement dans les kiosques ce matin. Marianne réduit sa pagination et l'Obs redevient le nouvel Obs. Et juste après ce journal, le billet politique de Jean Lemarié. Après la levée des zones à faible émission pour Rouen, Marseille et Strasbourg, la pollution est-elle mise sous le tapis ? Il est appliqué depuis 2017, mais le Sénat pourrait bien acter le rejet du CETA et au passage infliger un revers à la majorité présidentielle. Le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, est provisoirement en vigueur depuis son adoption au Parlement européen. Mais il n'a jamais été officiellement ratifié par le Parlement français, car jamais soumis au Sénat. Une alliance gauche-droite de circonstances risque donc bien d'infliger une défaite au camp présidentiel, Rosalie Lafarge.
À l'origine de ce coup de poker, car les communistes, c'est leur niche aujourd'hui au Sénat, l'occasion d'examiner les textes de leur choix. Et le groupe a décidé de retenir non pas une de ses propres lois, mais ce projet gouvernemental dans l'espoir de le faire rejeter.
C'est de la politique, parce qu'ici, on n'est pas une assemblée où on joue à la belote.
Le sénateur communiste Fabien Gay compte bien infliger un revers au camp présidentiel, déjà mis en difficulté lors du passage du traité à l'Assemblée en 2019 et qui n'a jamais pris l'initiative depuis de le soumettre à la Chambre haute.
C'est un gouvernement qui, dans un déni démocratique, décide de ne pas passer au vote alors que c'est obligatoire. Je pense qu'il y a une question démocratique. La construction européenne et les traités de libre-échange doivent pouvoir être débattus et votés par les représentants de la nation que nous sommes. La démocratie, c'est pas quand on est sûr de gagner, on joue, et quand on est sûr de perdre, on joue pas.
Cette fois, le gouvernement est quasiment sûr de perdre puisque la gauche devrait recevoir l'appui d'une bonne partie de la droite, majoritaire au Sénat. L'exécutif et ses troupes dénoncent une instrumentalisation. Le chef de file des sénateurs macronistes, François Patriat.
Je vous rappelle que cet accord, il a été initié sous président Sarkozy, qu'il a été signé sous président Hollande. Quand j'entends aujourd'hui les socialistes et les républicains s'offusquer, ça soulève chez moi quelques surprises. On est donc dans une opération électorale au milieu de la crise agricole et à la veille des européennes. J'ai le sentiment qu'il s'agit plus de règlement de compte politique que d'intérêt général. Et ça, c'est pas le rôle du Parlement.
Le Parlement qui, s'il acte aujourd'hui au Sénat, puis de retour à l'Assemblée, le rejet du traité, peut remettre en cause son application à l'échelle de toute l'Union européenne, même s'il faut pour cela que le gouvernement le notifie à Bruxelles. Et rien, légalement, ne l'oblige à le faire.
Rosalie Lafarge. Alors, côté canadien, comment est-ce que cet accord est perçu? De l'autre côté de l'Atlantique, on ne comprend pas vraiment pourquoi le CETA fait encore débat, Justine Leblond.
Que ce soit du côté des gouvernements fédéral et provinciaux ou de la société civile, il n'y a jamais eu d'opposition canadienne à l'accord CETA. Les lois pour légiférer sa mise en place provisoire sont passées sans problème. Charles-Emmanuel Côté est professeur en droit international économique.
Il n'y a pas de débat public ici, il n'y a pas de parti politique qui se prononce. Seul bémol peut-être du côté des producteurs agricoles, une certaine ouverture du marché des produits laitiers, on pense aux importations de fromage français, une certaine crainte d'être écrasé. Nous sommes évidemment un marché beaucoup plus petit.
La réticence de certains pays est plutôt incompréhensible côté canadien, car les gagnants de cet accord sont surtout européens, précise l'économiste québécois spécialisé sur la question, Christian Debloc.
La France exporte beaucoup plus qu'elle apporte du Canada. Du côté français, c'est essentiellement du vin, des alcools et des spiritueux. Du côté canadien, les exportations, c'est surtout des questions de graines.
La crainte canadienne, c'est que l'accord ne soit finalement pas ratifié.
Le Canada avait mis énormément d'eau dans son vin pour arriver à un accord qui pour lui était important et qui est devenu malgré tout un accord modèle. Explicitement, on reconnaît quand on touche par exemple aux questions réglementaires que les questions sociales, d'éducation, les questions environnementales sont priorisées avant le commerce.
Le Canada espère donc voir la France ratifier ce CETA, déjà appliqué en grande partie depuis 2017.
Justine Leblond, et actuellement 10 États membres de l'UE n'ont toujours pas terminé le processus de ratification. Un seul l'a rejeté, il s'agit de Chypre. mais le pays n'a jamais notifié ce rejet à Bruxelles, ce qui permet à l'accord de continuer de s'appliquer. 10 blessés cette nuit à Kiev dans des explosions dans le centre de la ville après une alerte aérienne pour des missiles et des drones et au lendemain de la mort de plusieurs civils en Ukraine et en Russie de chaque côté de la frontière. Tandis qu'à Bruxelles, les 27 États membres de l'Union européenne se réunissent en sommet aujourd'hui et demain pour tenter de mieux armer l'Ukraine et de mieux s'armer eux-mêmes face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. Et alors que le Conseil européen vient d'annoncer vouloir gonfler de 5 milliards d'euros son budget d'armement pour l'Ukraine et que le ministre américain de la Défense confirme que la demande la plus urgente de Kiev concerne les armes anti-aériennes, l'Europe se retrouve en position de devoir fournir cet armement seule, les budgets américains étant toujours bloqués au Congrès. L'industrie de défense européenne a mis les bouchées doubles pour produire ces armes sophistiquées et efficaces. Reportage à Belfast dans l'usine de missiles de Thales UK, Eric Begala.
Ça, c'est le tir d'un missile solaire LMM. Et ceci, c'est un missile Starstreak. Les armes anti-aériennes construites par Thales UK à Belfast et qui font un malheur en Ukraine. Efficaces contre les hélicoptères, les chasseurs et même les drones russes. Nul ne veut dire combien de pièces ont été livrées, mais on parle en centaines. Une chose de sûre, l'usine de Belfast a mis les bouchées doubles, confirme Alex Cresswell, le PDG de Thales UK.
Depuis le début de la guerre et jusqu'à aujourd'hui, nous avons doublé la production par rapport à ce qui sort de cette usine. La production a doublé en 2 ans. Et elle doublera encore d'ici les 2 prochaines années.
Il n'y a pas que les missiles eux-mêmes. Ceux-ci peuvent être tirés par un homme seul ou à partir d'un véhicule comme le Rapid Ranger. David Oliveira supervise l'intégration du système d'armes sur les Rapid Ranger.
Aujourd'hui, on a toujours une production en cours, indépendamment de tout contrat. Donc on a investi sur des lots de Rapid Ranger et on peut répondre maintenant aux demandes des clients.
Et doubler les volumes de production peut même se faire en quelques semaines. Dans ce hall, on produit les tubes de lancement du missile anti-char Enlow, coproduit avec le suédois Saab. Philippe McBride, directeur exécutif de Thales UK.
Il y a 2 mois, c'était beaucoup plus petit en fonction du rythme de production qu'on nous demandait. Évidemment, il y a eu une augmentation de la demande des clients et du fait de cette demande du marché, on a dû vraiment accélérer la production.
Vous l'avez doublé ?
Oui, on l'a doublé, au moins doublé.
Le groupe Thales, champion de l'électronique de défense, auquel est affilié Thales UK, a connu une année 2023 des plus fastes, avec en tout 18 milliards 400 millions de ventes.
Eric Biegala.
7 sur France Culture, la suite du journal de Laura Dulieu. Les États-Unis ont présenté un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Annonce du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est en ce moment en Arabie Saoudite pour tenter de faire avancer les négociations pour une trêve dans l'enclave palestinienne. Et c'est depuis Jeddah, un média saoudien, qu'il fait cette annonce, Sébastien Paour.
Nous avons soumis une résolution qui est à présent devant le Conseil de sécurité. Résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages, précise Anthony Blinken, et nous espérons vivement que les pays la soutiendront. Le texte devrait être approuvé, contrairement à tous les autres mis au vote devant le Conseil de sécurité depuis l'attaque du Hamas. Les États-Unis étaient les seuls, jusqu'à aujourd'hui, à rester opposés à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais le ton a récemment changé à Washington. Le mot « cessez-le-feu » n'est plus tabou. Froisser ou s'éloigner un peu des Israéliens n'est plus une ligne qu'on ne peut pas franchir, parce que l'obsession guerrière de Benjamin Netanyahou n'est plus tenable aux yeux de la Maison-Blanche, parce que la famine menace dans l'enclave palestinienne et que l'opinion publique américaine se détourne du candidat Biden en raison de ce qui est considéré ici comme un soutien aveugle à Israël sans prendre en compte le sort des habitants de Gaza. Les États-Unis espèrent que le message passera avec ce projet de résolution au moment où l'on négocie de nouveau la libération des otages. Blinken est attendu au Caire, puis en Israël dans les prochaines heures.
Sébastien Paour, et 2 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans une frappe aérienne en Cisjordanie occupée près de Tul Karem. L'armée israélienne dit soupçonnée de menacer ses soldats. En Indonésie, 69 réfugiés Rohingyas sauvés en mer cette nuit après le naufrage de leur bateau au large de la région d'Aceh. Selon l'un des 6 survivants recueillis la veille, plus d'une centaine de Rohingyas se trouvaient à bord du bateau naufragé. En Allemagne, la Bavière a décidé de bannir l'écriture inclusive et de renoncer à cette règle qui vise à réduire les inégalités entre les genres. Par exemple, instituteurice pour englober instituteur et institutrice. Il y a en Allemagne Pologne, pas de règles uniformes sur le sujet car l'éducation relève de la compétence des régions. Sébastien Baer.
L'Allemagne n'a pas échappé à l'essor ces dernières années de l'écriture inclusive et cela ne surprend plus personne de trouver dans un texte, par exemple, le mot suivant, Schüler, suivi d'un astérisque, suivi de la particule innen, forme raccourcie de Schüler et Schülerinnen, écolier et écolière en français. C'est ce type de langage que la Bavière a décidé de bannir. Désormais, les signes placés à l'intérieur d'un mot pour le féminiser sont interdits, qu'il s'agisse de l'astérisque, des deux points, de la barre oblique ou du point médian. Plus de Bürger, astérisque innen, ou de Arbeiter, deux points innen. Le président de la Bavière y voit une déformation de la langue qui doit être claire et compréhensible, dit-il. En décembre dernier, le Conseil de l'orthographe allemande était allé dans le même sens, en considérant que l'insertion d'un caractère spécial à l'intérieur d'un mot pouvait nuire à la compréhension des textes. La règle est applicable immédiatement dans les administrations, les écoles et les universités de Bavière. Sont concernées les lettres officielles, les sites internet, les manuels scolaires, les enseignements et la correspondance avec les parents d'élèves. En cas de manquement des fonctionnaires bavarois, il y aura des conséquences, prévient le gouvernement régional, sans en préciser la nature. Cette nouvelle directive bavaroise n'émeut pas grand monde. 3 Allemands sur 4 sont opposés à l'écriture inclusive.
En France, une marche blanche est prévue cet après-midi à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, pour rendre hommage à Wanis, 18 ans, tué la semaine dernière par une collision avec une voiture de police dans la ville voisine d'Aubervilliers. Un rassemblement organisé par la famille quelques jours après l'attaque du commissariat de la Courneuve dimanche soir par une cinquantaine de personnes qui ont tiré mortier et cocktail Molotov. Il y a du changement dans les kiosques ce matin. Le magazine L'Obs redevient le nouvel Obs. Quant à Marianne, l'exemplaire est beaucoup plus fin. La pagination est réduite de quasiment de moitié, son prix passe de 4,40 euros à 3,50 euros. Et des nouveautés pour séduire de nouveaux lecteurs et relancer des ventes en baisse. La presse magazine généraliste en France l'an dernier, c'était 2 200 000 exemplaires diffusés par jour, soit 100 000 de moins qu'en 2022. Le secteur tente donc de se renouveler, Aurore Richard.
Sur la couverture du nouvel Obs, un tout nouveau logo. À l'intérieur, toujours des enquêtes, mais aussi plus de sujets dédiés à la culture. Et pour ses 60 ans, le magazine remanie son site internet. Déficitaire, ses ventes ont baissé de 7% en un an. Cécile Prieur est la directrice de rédaction du nouvel Obs.
Notre ambition, c'est à la fois de continuer à croire et à montrer la pertinence de la presse papier, mais aussi d'amener des lecteurs à notre magazine papier via notre site, de pouvoir montrer en fait ce que c'est qu'une presse magazine en ligne qui elle-même, par la valeur de ses papiers, par l'originalité et la force de ses contenus, petit à petit, des lecteurs qui n'ont pas l'usage à une lecture papier.
Chez Marianne, la version papier est réduite drastiquement pour mettre plus de force sur le numérique. Et ce n'est pas le seul, d'après Julie Lorimi du syndicat des éditeurs de la presse magazine.
Il y a beaucoup d'efforts faits sur le digital, beaucoup de créativité, on voit même diversification des formats. Mais il y a réellement la difficulté de monétiser cette audience, puisqu'aujourd'hui, tous les revenus, publicitaires sur le digital sont captés de façon extrêmement importante par les plateformes, par les GAFA.
L'autorité de la concurrence française vient d'ailleurs d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Google concernant les droits voisins.
Aurore Richard, 19 productions lyriques, 10 programmes de ballet et 372 levées de rideaux au total. L'Opéra National de Paris dévoile sa saison 2024-2025 au programme Offenbach, Debussy ou encore Wagner dans un contexte économique encourageant après des années compliquées. L'institution est redevenue bénéficiaire pour la première fois depuis 2017. Pas question pour autant d'éclipser d'autres dossiers pressants, Louis-Valentin Lopez.
Début de l'année dernière, il affichait un déficit de 10 millions d'euros. Fin 2023, un bénéfice net de 2 millions. Les finances de l'opéra se portent mieux grâce à plusieurs facteurs, détaille le directeur Alexander Neff.
La billetterie qui a réalisé les recettes qu'il faut, le mécénat qui est en augmentation, mais aussi les visites du Palais Garnier qui sont une partie très importante de nos recettes propres. Mais aussi l'État qui, pour la première fois depuis 15 ans, a légèrement augmenté nos subventions de fonctionnement.
Mais le gouvernement entre dans une phase de resserrement budgétaire qui incite l'opéra à la vigilance. Et il faut aussi compter avec le contexte social. Un rapport divulgué par le Canard Enchaîné qui épingle le malaise, notamment des faits de harcèlement au sein des services techniques de l'opéra.
Évidemment, il y a des sujets dans une grande maison qui nous posent question. Avec un plan d'action que nous avons déjà engagé en entente avec le comité social et économique, une démarche partagée entre les élus du personnel et la direction, justement pour ne pas laisser durer cette situation.
Il y a aussi le cas des danseurs du corps de ballet qui menaçaient de faire grève en fin d'année dernière. Les discussions sont en train de reprendre, signale le directeur de la danse, José Martinez.
La nouvelle organisation de travail qu'on a mise en place permet aux danseurs d'avoir plus de temps, d'avoir plus de temps pour s'occuper de leur santé. Eux, ils veulent aussi plus. Donc on va voir comment on peut évoluer vers quelque chose qui soit bien pour les danseurs, mais qui n'empêche pas d'avoir une activité artistique, parce qu'en fait, ils sont là pour pouvoir faire des spectacles.
Autre dossier sur la table, la sélection d'un nouveau directeur musical après la démission prématurée de Gustavo Dudamel. L'objectif, nous dit-on, est d'aboutir à une nomination dans les meilleurs délais.
Louis-Valentin Lopez. Une journée encore bien ensoleillée ce matin avec quelques nuages bas à l'ouest qui se dissiperont rapidement. Il fait de 6 à 10 degrés en général du nord au sud.